Vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est le moment d'accueillir nos invités pour une émission consacrée à la santé et au bien-être des professionnels libéraux de santé. Alors pour nous en parler, dans notre studio, Rodolphe Bizet, masseur kinésithérapeute, président de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé au niveau du secteur d'Anote. Bonjour Rodolphe Bizet, bienvenue.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Également autour de la table, Élodie Matteron, infirmière libérale, secrétaire de la CPTS du Verdon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Et Émilie Auger-Laribé, coordinatrice du Conseil territorial de santé du 04, au CODES, le comité départemental d'éducation pour la santé. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors, les professionnels de santé ayant participé aux échanges locaux organisés dans le cadre des conseils nationaux de la refondation en santé ont dressé plusieurs constats sur la qualité de vie et les conditions de travail de ces professionnels. Ces constats ont débouché sur la réalisation d'une enquête par le CODES 04 et cette démarche vise à réaliser un diagnostic partagé afin de mieux comprendre les conditions d'exercice et le vécu des professionnels libéraux du département. Alors on peut peut-être commencer par revenir sur les professions de santé libérales. Quelle particularité, Rodolphe Bizet, vous êtes masseur kinésithérapeute et Élodie Matteron, vous êtes infirmière libérale. Quelle particularité pour ces professions?
Alors la grosse particularité de notre métier, c'est que nous sommes libéraux indépendants, c'est-à-dire que en plus de notre activité d'infirmiers libéraux ou de masseurs kinésithérapeutes, de soignants, on a aussi une casquette de chef d'entreprise avec tous les inconvénients et tous les avantages aussi que ça peut avoir. C'est ce qui motive souvent des infirmiers hospitaliers à changer de secteur et à venir dans le libéral pour, entre guillemets, découvrir un nouveau métier, parce que c'est vraiment un métier différent de ce qu'on peut connaître en structure. Et donc, c'est une nouvelle aventure.
Ouais, c'est comme le dit Élodie, effectivement, c'est une aventure, c'est un projet de vie aussi, perso et pro, et c'est là que le bât peut blesser par moment, puisque globalement, ce qui se passe dans le pro impacte le perso et inversement, et très compliqué de segmenter en fait dans une vie professionnelle et une vie personnelle les contrariétés du quotidien, comme dans n'importe quelle entreprise, si ce n'est comme le disait Élodie, on est des petits artisans de la santé globalement, maintenant regroupés, donc un artisanat qui a du poids aussi, l'offre libérale est quand même la plus importante sur le territoire. Et c'est vrai que nous avons eu vocation à nous regrouper au sein de structures, que ce soit les maisons de santé ou que ce soit maintenant les CPTS ou d'autres structures un petit peu plus confidentielles comme les ESP, les équipes de soins primaires. Le but, c'est d'avoir une unité au sein de ces professionnels, au sein de ces professions. Donc, il y a les médecins libéraux, il y a les pharmaciens, les orthophonistes, les sages-femmes, les dentistes. Voilà, on fait un peu société de soins au sein de ces communautés et on partage le bon comme le mauvais. Et la qualité du travail peut être portée au sein de ces structures et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui.
En fait, depuis 2022, donc sur tout le territoire français, a été mis en place les conseils nationaux de refondation en santé où l'objectif, c'est de regrouper les professionnels, les différents acteurs du territoire en santé, organisés par l'agence régionale de santé dans les départements et en région. Et donc, c'est de faire remonter par des espaces d'échange, peut-être des difficultés que les acteurs peuvent rencontrer et réfléchir ensemble pour co-construire des projets et proposer des solutions pour améliorer la santé sur les territoires. Donc, dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y a eu deux sessions en 2022 et 2023. Et ce projet de qualité de vie et conditions de travail émane de la dernière session de 2023 des CNR Santé. Donc là, la volonté, c'était la réflexion de comment faire pour rendre le territoire plus attractif. Il y a effectivement plusieurs pistes de réflexion et une des pistes, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir aux conditions de travail, à la qualité de vie de ces professionnels pour porter des projets et montrer que dans les Alpes-de-Haute-Provence, on prend ces questions en considération et donc faire venir plus de professionnels sur le territoire. Donc la première étape de cette réflexion, c'est de réaliser un diagnostic avec l'ensemble des professionnels. Et donc une enquête est disponible en ligne où on demande aux professionnels libéraux de santé des Alpes de Haute-Provence un peu d'échanger et d'évaluer leur bien-être au travail, leur bien-être aussi, les relations qu'il y a avec la vie privée, leur niveau de santé, et être force de proposition pour ensuite faire des propositions aux institutions du territoire.
Sachant que ce questionnaire s'applique à tous les professionnels de santé et que du coup, les problématiques pour les infirmières libérales sont différentes des problématiques rencontrées pour des kinésithérapeutes, pour des orthophonistes, pour des médecins libéraux, pour des spécialistes. Et en plus, on a dans le 04 la particularité d'avoir une géographie qui est très différente au niveau du département. Donc les problématiques sur l'Ubaye, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que les problématiques sur le sud du territoire. Des zones très ruralisées ou des zones plutôt urbaines, comme le secteur de Manosque ou de Digne, auront aussi leur lot de problématiques qui impacteront directement la qualité de vie des soignants et leur qualité de travail.
Il faut aussi rappeler que ce questionnaire a été conçu par des professionnels de santé pour leurs confrères et leurs consoeurs grâce au CODES et à une chef de projet donc qui est Émilie, qui est là avec nous aujourd'hui. Et donc voilà, c'est des remontées de terrain que l'on attend et c'est vraiment la pertinence, comme le disait Elodie il y a deux secondes, de tout le territoire qui est assez singulier puisque on a cette extrême ruralité et puis ces pôles urbains qui se développent avec en corollaire aussi les problématiques des centres urbains. Il y aurait la violence, il y aurait aussi l'accès aux soins qui est complexe, et tout ça fait un écosystème pas forcément toujours évident à maîtriser. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye d'appréhender tous ces paramètres. On a une commission au sein du Conseil territorial de santé qui s'appelle la commission d'accès aux soins et attractivité. On voit bien que tout est intimement lié et qu'on est obligé de prendre en compte tous ces paramètres-là, que ce soit la santé environnementale aussi, qui s'incrémente dans ce sujet-là. On pense être vertueux dans le 04, mais c'est pas toujours le cas des remontées de terrain que l'on en a, mais aussi la mobilité qui fait partie de ces enjeux-là, puisque une infirmière qui se déplace le matin sur une route enneigée est obligée de passer avant la déneigeuse, par exemple, il va bien falloir que son déplacement se fasse, parce que sinon l'accès aux soins, il n'y est pas, et son travail ne sera pas plus valorisé qu'un jour d'été, ou un jour de printemps où tout se passe bien, mais un jour d'été aussi où les camping-cars sur le plateau de Valensole vont entraver la circulation. Donc voilà, c'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte, et c'est la singularité du territoire et du département.
Tout professionnel libéral de santé peut donc se regrouper dans une communauté professionnelle territoriale de santé. Et c'est à l'occasion d'événements comme le Conseil national de la refondation de la santé qu'on peut dresser un diagnostic de la situation, faire émerger certains enjeux.
Il faut savoir qu'une communauté professionnelle en territoire de santé, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose qui est volontaire de la part des professionnels de santé, d'y adhérer et de s'y impliquer au niveau du bureau, au niveau de l'organisation, entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il faut voir que avant ça n'existait pas, donc les libéraux étaient quand même assez isolés dans leur cabinet, dans leur coin, dans leur secteur. Ils étaient en lien avec beaucoup de professionnels de santé, mais il n'y avait pas cette coordination qui se faisait. Donc c'est vrai que le Covid, notamment avec les centres de vaccination qui se sont créés via ces CPTS pour la plupart, ça nous a permis déjà de voir un réel intérêt et pour la population et pour nous-mêmes individuellement de ces structures-là. Elles se sont développées, elles ont gagné en intensité, elles ont gagné en réflexion, on va dire en personnes motivées pour les faire vivre et faire avancer les projets. Maintenant, il faut aussi que au-dessus de ces CPTS, c'est-à-dire que toutes nos instances tutélaires, le dialogue continue à se faire et qu'on puisse continuer à discuter, à trouver des solutions ensemble. Et c'est typiquement le cas de ces conférences qui nous aident à rencontrer les différents partenaires.
Je voudrais préciser sur ce travail de qualité de vie et conditions de travail des professionnels libéraux. C'est parti d'une remontée des acteurs de terrain, une volonté de travailler ensemble sur ce sujet. La construction du questionnaire s'est faite aussi avec différents acteurs de terrain, des représentants de CPTS, des représentants des ordres, des représentants du RPS. Il faut savoir que la QVCT, elle a inscrit dans le Code du travail depuis 2022, donc dans le monde de l'entreprise. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un sujet qui est souvent abordé dans les professions libérales. Et je trouve que c'est une chance aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, de prendre ce temps, de pouvoir aller questionner les professionnels libéraux de santé sur le terrain et de pouvoir co-construire quelque chose qui convienne aux spécificités de cette profession.
Juste précision, c'est qu'on est quand même des professionnels de santé. Bon, on a bien compris qu'on n'avait pas de qualité de vie, conditions de travail qui étaient mises en évidence, mais on n'a pas non plus de médecine du travail. Ce qui est quand même, pour les usagers, faire confiance à des praticiens qui sont eux-mêmes pas soumis à des conditions de travail forcément exemplaires, ça interroge. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est partie de ces réflexions des CNR Santé. Alors, c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre au niveau de la médecine du travail, hein, mais clairement, moi, ma dernière radio pulmonaire, comme je le disais tout à l'heure, date de mon BAFA. Voilà, donc ça interroge. Donc si on ne se prend pas un petit peu en main de manière individuelle, et puis quand on travaille de manière isolée, solitaire, au sein de son cabinet, ou des praticiens qui font que des soins à domicile, les CPTS peuvent à un moment donné, ou les MSP, hein, peuvent tout à fait être le recueil d'échanges, et surtout rompre l'isolement du praticien. Parce que lui est une éponge émotionnelle au quotidien. Voilà, cette éponge émotionnelle, il faut bien en prendre conscience. On nous demande une exemplarité dans les soins, mais il faut à un moment donné aussi que c'est un partenariat. Voilà, c'est un partenariat, c'est un binôme patient-soignant. Et ben, le soignant masquera systématiquement sa souffrance. Mais par contre, au sein de ces structures, on a bien pris en considération cette souffrance. Et du coup, c'est un bon réceptacle de cette souffrance, et surtout de pouvoir faire des staffs, de partager, d'échanger et de prendre en charge toutes les problématiques de santé mentale ou tout simplement de santé toute simple, hein, physique, exactement. Voilà, donc c'est vrai que ces structures exercices coordonnées ont permis d'avoir ce regard-là. Certains ne l'ont pas encore, mais on les incite du coup à se rapprocher. Alors il y en a de partout de ces structures. Il manque encore une petite zone blanche sur le nord du département, mais il y a des MSP aussi. Donc, il y a des solutions.
Et pour qu'on puisse se représenter, on a une idée du nombre d'adhérents ?
Alors, c'est très disparate, en fait, hein. On va raisonner par structure, et toutes les structures n'ont pas la même maturité. Là, on parlait d'une volonté ministérielle qui date d'une loi de santé, c'était Ma Santé 2022, où il devait y avoir des structures partout sur le territoire. Bon, on en a encore quelques zones blanches, mais si je prends le territoire de notre CPTS, par exemple, on est à 95% d'adhésion des professionnels de santé. Alors, c'est un territoire un petit peu particulier. On a réussi à fédérer. Mais globalement, je pense que progressivement, les gens y trouvent leur compte. Je pense que si on a des taux d'adhésion en milieu urbain qui avoisinent les 40-50%, ce sera déjà très, très bien. En milieu rural, il y a peut-être plus cette volonté de faire société.
Oui, alors après, nous, sur notre CPTS, on est une des plus anciennes. On commence à avoir un petit peu de bouteille, on va dire. On a entre 60 et 70 adhérents, puisque là, on est en train de refaire les adhésions 2026. C'est des structures qui, moi, je dis souvent, ne sont pas forcément représentatives par le nombre. C'est-à-dire que nous, on est une toute petite CPTS par rapport au nombre d'adhérents. Par contre, on est une CPTS qui, sur le territoire, est très vaste. C'est-à-dire que le haut du territoire de la CPTS, c'est Moustier-la-Palue. Le sud du territoire, c'est Gréoux-les-Bains. Et on va sur les côtés de Valensole jusqu'à Quinçon. Donc voilà, c'est une zone très large. Après, vous avez des CPTS qui sont beaucoup plus petites en termes de géographie, notamment sur des zones urbaines, mais qui vont avoir beaucoup plus d'adhérents au niveau du nombre de libéraux. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le nombre d'adhérents et la géographie. Et ce qu'il faut surtout sur une CPTS, c'est que le territoire soit représenté au maximum. C'est-à-dire que vous puissiez avoir des interlocuteurs dans presque toutes les zones de votre territoire de la CPTS, parce qu'il suffit d'un seul adhérent sur une zone pour que ça fasse effet boule de neige, qu'ils en parlent, qu'ils expliquent les actions, comment on met les choses en place, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider l'accès aux soins, le travail au quotidien. Et du coup, après, c'est là où vous faites venir les gens dans votre CPTS.
Et concernant les conseils nationaux de la refondation de la santé, est-ce que on vient déjà avec un objet à discuter, plusieurs pistes à explorer, ou est-ce que le constat se fait au fur et à mesure sur le moment? Qu'est-ce qui a pu émerger là dernièrement?
Alors, j'ai eu l'occasion de contribuer dès le départ au tout premier CNR, et c'est vrai qu'on a vu une évolution du format. Alors, il faut savoir que c'est très département dépendant, hein, donc c'est à la main de l'ARS. Donc, le premier CNR s'est déroulé sur un format de 6 réunions partout sur le département, pour une équité territoriale, pour recueillir la parole. Voilà. Il y avait des thématiques qui se dégageaient en fonction des territoires, parce qu'il y avait des problématiques qui étaient déjà identifiées. Le deuxième format, l'année suivante, était beaucoup plus restreint, sur 3 CNR, sur 3 réunions, dont une en particulier, puisqu'on parle des soignants aujourd'hui, qui était vraiment dédiée aux soignants. Donc c'était sur Volonne, et il y avait une belle unité, et je pense que c'est de là que cet axe a vraiment été valorisé, parce que des choses très pertinentes ont été dites, et surtout, il y avait un échantillon représentatif des professionnels de santé. Voilà, tout à l'heure je les ai cités, mais il y en aura d'autres. Hein. Autour des professionnels, il y a aussi des psychologues, il y aura des ostéopathes, voilà. Mais il y a un noyau bien identifié qui porte ces structures-là, et en tout cas, là, ce jour-là, ils étaient là. Donc, ça date de cette époque-là.
Il y a eu 2 éditions de CNR Santé. Du coup, ça a été aussi organisé dans d'autres territoires, dans d'autres départements. Nous, dans notre département, on a eu la chance, suite à ces 2 éditions des CNR Santé, d'organiser une conférence territoriale de santé, fin d'année 2024, où du coup, aussi sur le format, il y a eu l'opportunité l'après-midi à l'ensemble des acteurs présents de faire aussi remonter des besoins et des propositions. Donc voilà, il y a différents projets comme ça qui sont encore en cours suite à ces moments de concertation avec les acteurs de terrain.
Parce que c'est important de mettre en œuvre, mais c'est aussi important de restituer, de comprendre les démarches que l'on entreprend, dans quel objectif et à terme ce qu'on peut voir émerger. Alors, il y a une temporalité dans tout ça qui est pas visible pour l'usager. C'est tout l'enjeu de cette conférence qui a eu lieu. C'est-à-dire, voilà, on a abouti, il y a des financements derrière qui ont pu être sollicités, qui permettent de faire avancer certains projets et qui rend, de ce fait, le département dynamique. Et ça, c'est vraiment à la volonté de nos institutions. Nous, on ne peut qu'abonder, hein. À partir du moment où on nous sollicite, on vient, on viendra, et à l'époque, on est venu.
Et donc, si on va en revenir au diagnostic qui a été dressé, quelle évolution de l'exercice libéral et qu'en est-il donc de l'enjeu d'attractivité des territoires qui a été soulevé?
Alors là, le diagnostic est en cours. Donc l'enquête est en cours. Il y a eu tout un temps de travail assez important de se questionner sur la qualité de vie, les conditions de travail et les spécificités de la profession libérale en santé. Et là, c'est la première étape. Le questionnaire, il est construit, il est mis en ligne. Il y a déjà un certain nombre de professionnels qui a pris le temps d'y répondre. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir plus de personnes qui puissent répondre à ce questionnaire pour avoir une vision plus objective de la réalité du terrain. Suite à l'analyse des résultats, ça serait intéressant après d'aller dans le qualitatif et de pouvoir organiser quelques échanges, entretiens, groupes, ce que moi j'appelle dans mon jargon des focus groups, où par rapport à ces données statistiques quantitatives, pouvoir les expliquer avec du qualitatif et pour pouvoir après proposer une sorte de plan d'action qui reprenne toutes les thématiques de la qualité de vie au travail. Donc c'est aussi bien sûr l'organisation, les compétences, le parcours professionnel, les formations, l'égalité au travail, aussi bien entre les genres que des égalités géographiques. Comme l'a dit tout à l'heure Élodie, on est sur un territoire très différent. Moyenne montagne, de la vallée, tout ce qui est aussi le management et évidemment la santé au travail et la santé physique et la santé psychique Voilà. Et donc là, aujourd'hui, nous, on n'a pas de résultat à donner parce que l'enquête est en cours et qu'on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de professionnels qui puissent répondre à cette enquête.
Il faut savoir que nous, de ce qui nous remonte du terrain, il y a des choses qui sont très générales et qui s'appliquent à tout le monde, toutes les professions, peu importe le secteur d'activité, peu importe le secteur géographique. Ça, c'est des données qui nous remontent au niveau même national. On a des choses qui reviennent systématiquement. Après, vous avez des choses qui reviennent et qui sont très professionnelles dépendantes, c'est-à-dire qu'en fonction des professions des gens, on a effectivement des choses qui reviennent. Et après, on a le contexte géographique, le contexte d'activité, voilà, qui aussi est spécifique.
Oui, donc cette enquête a pour but d'affiner le diagnostic. Comment ça se déroule? Combien de temps dure l'enquête? On y accède comment? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Comment ça marche?
Alors, l'enquête est disponible sur Internet, donc vous pouvez aller sur le site du Codex 04 pour la retrouver. Nous, on publie assez régulièrement aussi sur nos réseaux sociaux l'accès au questionnaire. Vous pouvez aussi, les personnes peuvent me contacter directement au CODES, je pourrais donner les renseignements. Donc, comme il y a eu la volonté de balayer l'ensemble des sujets de la QVCT et de la santé au travail, répondre au questionnaire, ça prend environ 20 à 25 minutes. Voilà. C'est un questionnaire assez complet, anonyme. Et pour être inclus dans le questionnaire, il faut être un professionnel libéral de santé qui exerce dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, mais ça, dès le début, en fait, il y a deux questions qui permettent d'orienter selon les personnes qui répondent. Voilà, donc sur le codes04.org, on va trouver le lien pour accéder au questionnaire.
Il faut bien préciser que c'est anonyme. Donc, pour revenir à ce que disait Rodolphe tout à l'heure, nous n'avons pas de médecine du travail. Donc, ça permet aussi, pour certains professionnels de santé, de parler, entre guillemets, sur un questionnaire de sujets dont ils n'ont peut-être jamais abordé la problématique avec quelqu'un. On pense notamment des conduites addictives, on pense notamment du burn-out, on pense notamment des difficultés familiales, des difficultés financières, parce qu'il faut savoir que dans les professionnels de santé libéraux, il y a des situations parfois financières très compliquées, avec des gens qui se retrouvent sous des procédures. Ça leur permet d'avoir au moins pour une fois un interface qui leur pose des questions concrètes, parfois qui sont peut-être un peu gênantes, effectivement, quand on vous demande si vous avez pris de la drogue ces dernières années, quel est votre rapport avec ça. Quand on remplit le questionnaire, ça questionne déjà en tant que professionnel de santé individuellement, et ça permet quand même, ben, pour une fois, d'en parler, de répondre, et de se dire peut-être, si on me pose la question, et si je réponds, c'est que peut-être déjà j'ai un problème par rapport à ça, et ça vaut le coup d'aller consulter quelqu'un, d'en parler à quelqu'un d'autre, et de faire du lien. Donc rien que remplir un questionnaire, ça peut emmener à d'autres conséquences et à d'autres prises en charge pour les professionnels de santé.
Merci. Et effectivement, c'est aussi de se dire, ben, si un groupe de travail composé d'acteurs de terrain s'en dit, ben, c'est intéressant de poser ces questions, je suis peut-être pas tout seul ou toute seule dans cette situation. Et je trouve ça assez encourageant de se dire qu'on n'est pas seul face à une situation difficile ou problématique.
Oui, donc ça peut permettre une prise de conscience sur le plan individuel, et ça peut permettre une mise en lien sur le plan collectif. Jusqu'à quand est-il disponible ce questionnaire? Est-ce qu'il y a une date limite?
Là, nous n'avons pas encore posé de date limite. Pour l'instant, j'ai pu inclure dans le questionnaire environ 150 personnes, 150 professionnels. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on ait un échantillon de 300 professionnels. Donc, on va dire que nous sommes à la moitié. Donc là, pour les prochains mois, le questionnaire est complètement disponible.
Oui, il reste ouvert dans le but de recueillir maximum de points de vue.
C'est ça, tout à fait.
Après, il faut prendre en considération que ce sont des thématiques. On n'a jamais demandé aux professionnels de santé leur parole, en fait. Et recueillir la parole, c'est déjà accepter de la donner. Alors, il y en a qui sont assez à l'aise avec ça, mais c'est quand même une démarche qui est un petit peu innovante. C'est un enjeu. Nous, on l'avait ciblé comme un enjeu. au sein des différentes structures pour lesquelles on œuvre. Donc c'est vrai que voilà, il y a une temporalité peut-être qu'il faut s'accorder de manière à ce que les professionnels puissent répondre et libérer un petit peu cette parole. Je crois que le questionnaire a été un petit peu bien véhiculé en tout cas, mais il y a aussi l'ensemble des structures qui gravitent autour du professionnel de santé. Je parlais des URPS tout à l'heure, mais aussi les conseils de l'ordre qui ont pris ces problématiques un peu à bras le corps. Parce que c'est quand même, j'avais sorti un petit peu quelques statistiques, hein. Vous avez quand même, de mémoire, un soignant sur deux qui est potentiellement en burn-out. Alors, je veux entendre, à l'échelle nationale, hein, je veux entendre que sur le département, peut-être, on est un petit peu préservé par une qualité de vie un petit peu différente. En tout cas, 1 sur 5 en a déjà eu un. Voilà, je pense que ça peut interpeller. Et 19% déclarent avoir souffert ou souffrent de dépression. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plus facile de sourire à un patient que de lui expliquer pourquoi on va mal. Je pense que beaucoup de professionnels vont se reconnaître dans ce genre d'attitude. Voilà. Mais il faut libérer la parole et nos institutions sont là pour ça. Tout le monde prend un peu la problématique quand même au regard de ces chiffres. Tout le monde prend un peu la problématique à bras le corps. Je parlais du Conseil de l'Ordre, mais aussi il y a une structure qui est portée par les URPS, donc qui sont des entités qui regroupent les professionnels de santé. Il n'y a pas besoin d'y adhérer pour le coup. C'est pas comme une CPTS. Et il y a une structure qui s'appelle MedAid, qui est très très importante, qui est portée par l'URPS des médecins libéraux. C'est une structure qui reçoit de plus en plus d'appels. Alors peut-être sont-ils dépassés aussi par les sollicitations, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et en tout cas d'accompagner les professionnels qui sont en souffrance.
Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'associations qui se créent pour venir en aide aux soignants. Moi-même, j'ai participé à une journée en mer d'une association qui s'appelle Guérir en mer, donc qui est sur Marseille, puisque c'est des journées voile. Et on se rend vite compte qu'on n'est pas là par hasard. C'est-à-dire que quand on vient participer à ces journées, c'est qu'on a peut-être besoin d'une journée off, où on ne sera pas sollicité sur nos téléphones portables, même si c'est notre jour de repos, où on n'aura pas la tête prise par notre travail, mais qu'on pourra faire vraiment un break d'une journée. Et pourtant, on est sur un bateau avec d'autres professionnels de santé, et on se rend compte en discutant avec eux qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, peu importe leur lieu d'exercice. Il faut savoir aussi qu'au niveau des statistiques en ce moment, les violences au niveau des soignants explose, que ce soit des violences physiques, sexistes, sexuelles, verbales, et que du coup, tout ça va avoir un impact à court, à moyen ou à long terme sur la qualité de vie des soignants, leur qualité de travail, oui, bien sûr, mais aussi leur qualité de vie au quotidien. C'est-à-dire que quand vous avez été victime de violences sexuelles, sexistes, verbales ou physiques dans votre travail, le soir, quand vous avez fini votre journée et que vous rentrez chez vous, il faut assurer le quotidien. Donc, c'est quand même je parle pour mon cas, pour les infirmières libérales, une majorité de femmes qui exercent cette activité professionnelle. Le soir, quand elles rentrent, il faut faire poker face devant le mari, devant les enfants, devant le quotidien, devant le repas à servir, le repas à préparer. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça crée un épuisement professionnel, certes, mais aussi personnel. Et si vous avez que des professionnels de santé, on va dire, fatigués, usés et pas bien dans leur basket et pas bien dans leur tête, ça va être des professionnels de santé qui, au travail, vont moins bien soigner et surtout qui ne vont pas avoir une durée de vie professionnelle importante. Les infirmières en structure, la durée de vie, c'est 7 ans. On est sur une population vieillissante où le manque de soignants commence à se faire sentir, qui va être de plus en plus producteur de soins. Il nous faut des soignants en forme pour arriver à assurer ce virage.
On a eu récemment une réunion sur un plan d'action de la sécurité des soignants qui va se mettre en œuvre sur le département, puisque bon, dans les grandes métropoles, c'est une réalité du quotidien. Faut-il aussi que les signalements remontent, et c'est souvent la problématique, et encore une fois, libérer la parole, signaler ces événements indésirables, et ensuite que ce soit entendu et relayé et exploité de manière pertinente au sein du territoire. Voilà. Donc clairement, ben, les infirmières qui sont à majorité féminines sont très exposées. Elles véhiculent aussi des stupéfiants, tout comme les médecins, les pharmacies. Ce sont des problématiques qu'il faut pas mettre de côté. Donc voilà, on attend beaucoup de ce plan d'action de sécurité des soignants qui sera porté ben, par la préfecture essentiellement. Mais je pense qu'on a notre mot à dire aussi sur ce volet-là, puisqu'il est fait pour nous. Donc pour faciliter aussi le recueil de la parole.
On ne peut que donc souligner l'importance de participer à ce questionnaire et pour se renseigner davantage sur tous ces sujets, sur les structures qui existent. Est-ce qu'il y a des contacts que vous voudriez communiquer, un numéro de téléphone peut-être, rappeler le site sur lequel on peut retrouver le questionnaire?
Alors, en ce qui concerne le questionnaire, vous pouvez le trouver sur le site du CODES 04, donc codes04.org. Ensuite, toutes les questions qui concernent le questionnaire et ce travail sur la qualité de vie, vous pouvez me contacter au 06 15 27 31 57.
Et pour MedAid, je vais vous donner de ce fait le numéro, c'est le 04 65 40 00 10.
Et après, pour tous les professionnels de santé, n'hésitez pas à contacter vos URPS, vos CPTS, votre ordre. Et voilà, on est tous solidaires, même si ce n'est pas la même profession. Il n'y a pas de souci pour que d'autres professionnels de santé se contactent, on va dire, malgré la différence de profession.
Est-ce qu'il y a des prochaines dates, événements que vous aimeriez annoncer ou un point qu'on aurait oublié d'aborder, sur lequel vous auriez envie de revenir?
Oui, alors il y a ce qu'il faut voir, c'est que là aujourd'hui, vous donnez la parole, on vous en remercie encore. On a dressé un constat, mais il y a quand même des choses qui sont déjà mises en œuvre parce qu'on n'a pas, on n'attend pas des plans ministériels pour agir, même si on est preneur. Mais il y a rien que le fait de pouvoir en parler aujourd'hui montre qu'on a déjà beaucoup avancé sur le sujet, et il y a déjà des initiatives qui se prennent ça et là. Moi, je voudrais citer quand même des initiatives sur la maison de santé de Vologne, sur la maison de santé de Aiglun, qui ont déjà pris ce volet-là à bras-le-corps au sein de leur structure. Mais on a des structures aussi qui peuvent nous aider à porter des projets comme cela, notamment via le sport santé. C'est Gréou, je crois.
Tout à fait. Il y a une maison sport santé à Gréou et une maison sport santé à Fort-Calquier.
Ce sont des structures qui peuvent nous aider à prendre soin de nous, à prendre soin aussi, donc de fait, mieux prendre soin de nos usagers. Mais ensuite aussi les volets formation. Et je pense que là, il va falloir qu'on fasse vraiment société au sein du territoire. Parce que on n'a pas parlé des tarifications, mais les tarifications forcément mettent en avant la valorisation du travail du soignant, et ça en fait partie. Donc ça, c'est CPAM dépendant, pour faire assez simple, mais un volet formation aussi, tout simplement, où on a pu, nous par exemple sur notre structure, faire des premiers secours en santé mentale. Et ces premiers secours en santé mentale nous ont permis finalement de prendre conscience de la problématique, nous-mêmes peut-être nous questionner, comme le disait tout à l'heure Élodie. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas attendu de le déployer. On nous l'a proposé, on l'a pris et on en est très heureux. Nous, on a pu même avoir grâce à la MSA aussi, un partenariat sur les villages sentinelles en milieu agricole. Alors au départ, c'est pour les agriculteurs. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'à la formation, il y avait des agents de la poste, il y avait des agents de mairie, il y avait des retraités. Il y avait, moi, j'avais même un étudiant qui est venu. Je pensais qu'il allait se barber. Ben non, il s'est régalé. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, qui sont coordonnées. Hein, parce que si on coordonne pas les initiatives, à un moment donné, on risque de s'épuiser encore une fois, ce qui serait bien dommage. Et puis, je pense que à partir du moment où on a compris que les soignants travaillent avec l'usager, mais avec aussi leurs élus via les structures d'exercice coordonnées, je pense que là, on a fait un grand pas, mais c'est déjà entendu et ça commence à bouger dans le département.
Merci beaucoup à tous les trois. Rodolphe Bizet, ma sœur kinésithérapeute et président de la CPTS au secteur d'Anotte. Élodie Matron, infirmière libérale, secrétaire de la CPTS du Verdon. Et Émilie Auger-Laribé, coordinatrice du Conseil territorial de santé 04 au CODES 04. Merci beaucoup à tous les trois. Vous retrouvez cette émission en ligne sur le site de Fréquence Mistral, antenne de Digne-les-Bains. Merci à tous les trois.
Merci.
Un très grand merci.
Et une excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de Fréquence Mistral.
like you. I once was a carer too. I understand the periods of screaming silence. When those demons come, all you've got is defiance. I have been through it all, seen it all. I once was a carer too. Where I used to sit, you sit there too. On those inpatient wards or the GP surgery queues. They say we are needy, and I guess that's true. I once was a carer too. As you look to me, I look at you. It's a difficult journey you have to go through. Once was a carer too.